Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Quels sont les méfaits de la corruption dans l'administration publique? C'est le premier thème que nous abordons dans cette première heure du magazine Okapi Service. La corruption a atteint des proportions inquiétantes dans l'administration publique. Certains agents de l'État véreux se distinguent dans le trafic des documents administratifs et de certains biens appartenant au domaine public. Ils rendent complexes certaines procédures afin d'en tirer des juteux pots de vin. Quels sont les méfaits de cette pratique? Érigé en mode de fonctionnement depuis des années dans l'administration publique, Robert Moussi, directeur général adjoint à l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle au CEPANSIG, est notre invité encore une fois. Bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur Robert, qu'est-ce qu'on entend par corruption?
En fait, la corruption, c'est tout abus de pouvoir pour des fins personnelles. Et vous savez que, en fait, la corruption, c'est à chaque instant qu'un agent public de l'État se permet de prendre les moyens propres à l'État et les utiliser pour des fins égoïstes, donc en priver l'État. À ce moment-là, nous parlons des actes de corruption.
Alors, quelles sont les causes de la corruption dans l'administration publique?
En fait, les causes de la corruption, il faudra aller le chercher un peu plus loin. Et l'aspect le plus important, c'est l'effritement de la conscience nationale. Et je dirais de la conscience publique, de la conscience sociale dans les chefs de plusieurs agents publics de l'État.
Effritement de la conscience nationale.
Tout à fait.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Ça signifie que les gens, pendant qu'ils réalisent, ils exécutent leur mission d'agent public de l'État, ils oublient que travailler, en fait, comporte deux dimensions. Et il y a la première dimension qui est la dimension personnelle, c'est-à-dire pouvoir à vos besoins. Mais il y a l'autre dimension qui est la dimension, si vous voulez, altruiste, c'est de rechercher le développement socio-économique de son pays. Et aujourd'hui, la deuxième dimension, franchement, n'est plus prise en compte. Les gens veulent d'abord pouvoir à leurs propres besoins, quels qu'en soient les moyens. Et alors, à ce moment-là, quand les gens veulent d'abord satisfaire leurs propres besoins, et mettant donc à côté l'intérêt général, l'intérêt collectif, donc nous voyons à ce moment-là surgir les pratiques de corruption.
Oui. Et ces pratiques, en pris du temps, se sont installées depuis plusieurs années dans l'administration publique. Alors, vous connaissez bien ces milieux. Alors, dites-nous, quelles sont les formes, par exemple, des corruptions qui existent dans ces milieux-là?
Il y a plusieurs formes de corruption, notamment il y a les monnayages de services à rendre aux usagers de services, aux citoyens clients. Il y a à côté du monnayage la fraude, il y a l'usage des faux et l'usage des faux, notamment avec les quittances parallèles dans les services générateurs de recettes. Et il y a en fait aussi le trafic d'influence qui amène à soustraire certaines personnes qui sont redevables à l'État de leurs obligations. Et nous pouvons aussi continuer et aller plus loin, jusque même à parler de l'abstention coupable. Le fait que, par exemple, le comptable ou les personnes qui sont chargées d'effectuer certaines dépenses ou même la paie pour le compte de l'État puissent détenir par des verres et des sommes qui devaient liquider. Entre-temps, ils font autre chose avec ça.
Donc, la corruption a des coûts, si on peut le dire comme ça, l'administration publique aujourd'hui.
Sensiblement. Aujourd'hui, si nous pouvons, en fait, faire une forme de hiérarchisation des antivaleurs qui ont sérieusement rongé notre administration au point où de la rendre inefficace, la corruption vient en tête.
Mais certains disent que c'est parce que les gens ne sont pas bien payés, les fonctionnaires de l'État ne reçoivent pas régulièrement leur salaire, et c'est ça qui a favorisé la corruption.
Disons qu'en partie, quand les gens posent le problème des salaires, ne vont pas ignorer ce problème. C'est vrai, l'État doit payer correctement ceux qui travaillent pour la nation. Mais une chose est vraie, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est plus un prétexte, je dirais, et que l'État doit effectivement chercher à juger. Parce que, vous savez, le vrai problème, pour que les agents de l'État soient bien payés, il faudra qu'ils mobilisent suffisamment de moyens pour s'attendre à être bien payés. Mais malheureusement, les gens se servent à la source, à leur niveau. Alors, quand on se met à se servir à la source, c'est qu'au niveau du trésor public, maintenant, il n'y a plus grand-chose. Et même à ce niveau-là, quand les gens canalisent l'argent vers les caisses de l'État, il faudra aussi que certaines personnalités évitent de se servir de ce qui se retrouve déjà dans la caisse de l'État pour une redistribution. Donc, on peut dire quelque part que le malheur du fonctionnaire, lui-même du fonctionnaire, est aussi à la base de ce qui arrive, parce qu'il prive l'État des moyens importants et les spécialistes ou les experts en matière de corruption estiment à entre 15 à 20 milliards. Les manques à gagner, ceux qui échappent
par année. 15 milliards de dollars.
15 à 20 milliards de dollars, ceux qui échappent au trésor public du fait de la corruption.
Voilà. Vous avez des questions, des préoccupations, composez le 081-890-6394. Quels sont les méfaits de la corruption dans l'administration publique? Au Café Service, on reçoit aujourd'hui Robert Moussy, directeur général adjoint à l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle des auditeurs en ligne. Monsieur Kato nous appelle des Djougou et Sylvain Debounia. Composez également le 081-890-6394 pour participer.
Ils sacrifient leur vie au nom de la paix. Ils n'ont qu'un seul devoir, servir les peuples et les nations en conflit. Ils n'ont qu'un objectif, installer le dialogue et repousser les frontières de la violence. Rendons hommage à leur engagement. Le 29 mai, journée internationale des casques bleus.
Quels sont les méfaits de la corruption dans l'administration publique? Kato, vous êtes à Djougou, bonjour.
Oui, oui.
Voilà, M. Kato, vous êtes à Djougou, dans la province orientale, on vous écoute. M. Kato, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Souvent, ce qui provoque la corruption, la corruption au sein de l'administration publique, au sein de l'administration publique, c'est souvent parce que vous voyez, il y a plusieurs agents qui sont motivés les recettes au sein de la base, souvent ils trouvent des agents de choses, de la dégérance au niveau de la base. Alors, ces agents de la dégérance ne font pas nécessairement tous les dits à la base. Alors, lorsque un agent constate ça, il revient comment ça, surtout, à occasionner des manques à gagner aussi au niveau des trésors, c'est ça.
Merci, Kato. Sylvain, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à tous les auditeurs à la bourse.
Quelle est votre question, Sylvain?
Bon, j'ai dit, il faut d'abord dire qu'avant que je pose ma question à votre invité, je constate que la corruption, elle n'est pas seulement dans l'administration publique au privé, elle a presque pris toutes les élections de la RDC. Et la corruption se parlait d'elle, finalement, partout. Je ne sais pas, est-ce que votre invité est d'accord avec moi? Et bien que la corruption a pris tous les Congolais, mais les Congolais ne veulent pas que la corruption soit appelée contre leur peau et qu'on n'en parle pas. Je pense que vous vous souvenez, l'année passée, Joseph Kabila, de la République, a appelé les magistrats et corrompu. Et l'Église catholique, par l'entreprise de leur conférence de l'année passée, ils ont relevé aussi les problèmes de la corruption, et ils ont dit que la restauration de la nation doit passer par la lutte contre la corruption. Je ne sais pas, lui, il maîtrise la question de qui. Est-ce qu'il pense que le problème de la corruption au Congo, c'est un problème d'homme, ou tout simplement, c'est devenu une institution comme les autres?
Merci, Sylvain. Théodore nous appelle de Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour, M. Daniel.
On vous écoute.
Je veux bien être éclairé sur la pratique des agents de l'État. Bon, il y a chaque fois sur le terrain, il y a deux types de preuves de paiement. C'est là parallèlement opposé. C'est comme par exemple les affaires économiques. Quand ils viennent pour contrôler les structures des prix, statistiques d'approvisionnement, l'affichage des prix et les facturiers. Bon, à la place, qu'est-ce qu'ils font? Dans les hangars ou dans les dépôts, ils cotisent, par exemple, 5 000 par hangar, ou 10 000 par dépôt, sans preuve de paiement ni quoi. Alors, ils disent que c'est l'argent de rapport seulement. Alors, je ne sais pas, ça fait sens là, on dira que c'est l'argent qu'il y a au trésor public ou dans leur poche. Il y a aussi des services de l'IPMEA pour l'autorisation, par exemple, d'investir. C'est la même chose, ils cotisent chaque fois. Et puis, il y a un service d'assainissement. Dans les marchés, par exemple, vous trouverez qu'il y a la commission d'assainissement, mais il y a la salubrité, il y a de la saleté partout dans les marchés, mais chaque samedi, ils passent pour cotiser chaque hangar, 100 francs congolais, ils le prennent comme ça. Ouais, bon, ils sont en preuve de paiement ou quoi. Et puis, pour terminer, il y a aussi les services de la police, c'est un pêcheur. Bon, dans les coins, vous les trouverez, vous les demandez les documents, si tu veux la mettre en lit, on donne, ils empochent, bon, je ne sais pas, c'est argent. Ça va au bureau comme rapport ou comment? Alors, comment on peut décourager ça? Voilà un peu.
Merci Théodore. Robert Messi, vous avez plusieurs questions. Sylvain Debounia, est-ce que la corruption c'est un problème d'homme ou bien elle est devenue toute une institution?
Sylvain dit, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui dans notre pays, la corruption est devenue un mode de vie. Pratiquement un mode de gestion de l'appareil de l'État. Donc, il y a généralisation de la pratique des corruptions. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que, en fait, ce problème, depuis 2004, il y a des dispositions qui ont été prises, notamment dans le cadre d'un protocole d'accord qui lie notre pays avec la République sud-africaine et l'Office des Nations Unies contre la corruption. À ce niveau-là, il y a des travaux qui se sont déroulés, notamment le Forum national de la lutte contre la corruption, la table ronde des experts, et jusqu'à produire les documents de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo.
Le document existe déjà.
Le document existe depuis octobre.
Mais pourquoi il n'est pas appliqué? On ne sent pas l'impact.
Il est tout à fait, vous avez raison. Le document est sur la table du gouvernement au Conseil des ministres. Le document attend encore son adoption par les gouvernements avant que les différents projets de loi puissent être transmis au niveau du Parlement où ils seront votés et finalement nous aurons la promulgation des lois pour contrer la corruption dans notre pays.
Il y a Kato qui nous a appelé des Yougou qui nous a parlé de certains agents de l'État qui vont à la banque pour verser l'argent. Ils trouvent des agents de la DGRAD et qui prennent une partie d'argent pour eux-mêmes alors, et à leur tour ils font les mêmes.
Tout à fait. En fait,
donc il y a en fait un effet d'entraînement.
Oui, vous savez, la corruption, il y a des réseaux. Hein. Les gens ne s'y attellent pas seuls. Il y a des réseaux, c'est-à-dire vous allez voir quelqu'un qui travaille au niveau des régies financières, mais quand il faudra verser l'argent au niveau des banques, ils sont en intelligence, en connivence
avec certains agents de la banque.
Le percevoir, nous connaissons toutes ces choses juste au niveau des bordéraux. Et ce n'est pas toujours les véritables montants qu'on consigne.
Donc les gens travaillent en réseau.
Oui, ils sont en réseau.
Oui.
C'est pourquoi cette liste nécessite absolument une stratégie. On ne peut pas y aller de manière désordonnée. Parce qu'il y avait la stratégie, tous les secteurs, il y a des stratégies sectorielles pour tout ce que nous pouvons avoir comme secteur d'activité au sein de l'émission publique.
Il y a Théodore Desmoujemaï qui nous a parlé des agents de l'affaire économique qui vont au marché et les gens cotisent pour eux, on leur donne un peu d'argent sans preuve de paiement. IPMEA, il a parlé également de ceux qui s'occupent de l'assainissement, de la police, la PCR, des agents de la police qui passent leur temps à demander de l'argent aux chauffeurs.
Tout à fait. Pour ce qui
et ça, au vu de tout. De tout le monde.
Tout à fait. Pour ce qui est de l'absence de preuves de paiement, je crois que c'est un problème d'éducation des usagers des services, un problème même de patriotisme. Il revient aux citoyens congolais, ou même aux expatriés qui travaillent chez nous, d'exiger les preuves de paiement. Vous ne pouvez pas donner l'argent, payer votre argent pour un document quelconque administratif, et sans que l'on puisse vous livrer une quittance qui constitue la preuve de paiement. Donc, c'est, il revient aux usagers des services d'être exigeants à cette matière.
Pour ceux qui mais on peut vous donner des quittances fabriquées de toutes pièces, hein, quelque
oui.
part.
Oui, moi, en tant qu'usager des services, je préfère avoir une quittance qui n'est pas conforme. Mais dis-moi, j'aurais une preuve. Je pouvais arriver à l'utiliser un jour pour faire voir que cet agent-là a dit détourner le fonds destiné à l'État.
Alors, quels sont les méfaits de la corruption aujourd'hui?
Les méfaits de la corruption, j'ai déjà parlé du fait que l'État est privé de moyens essentiels, mais aussi les dysfonctionnements pratiquement de tous les services de l'État. Nous avons la baisse sensible du niveau de l'enseignement au niveau de l'éducation nationale.
À cause de la corruption.
À cause de la corruption. Il y a aussi le problème de la desserte en électricité dans notre pays. Vous savez qu'avec tout ce que nous avons comme potentialité, il y a jusque-là que 9% des Congolais qui ont accès à l'énergie électrique. Et le problème avec l'eau potable, nous avons à peine 22% des Congolais qui ont accès à cela. Et il y a le problème de pratiquement l'accès difficile aux soins de santé de qualité. C'est à peine 39% des Congolais qui peuvent avoir droit aux soins appropriés. Et ça, c'est déjà des conséquences très graves. Et tout cela, c'est parce que nous privons notre pays des moyens pour qu'il soit en mesure de s'assumer correctement.
Deux auditeurs en ligne, Henri nous appelle de Kalemi, dans la province du Katanga, Mavé est à Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Henri de Kalemi, bonjour. Désolé, Henri n'est plus en ligne. Mavé, vous êtes à Kananga, bonjour.
Allô, bonjour, c'est Henri Kachama, bonjour à toi, invité ainsi qu'à tous les invités que nous suivons en ce moment.
Mavé, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Alors c'est bien, j'avais juste une contribution par rapport à l'émission Bordeaux-Lori, qui cadre avec la corruption qui est vraiment éparpillée, adoptée même par les autorateurs des élections administratives dans notre pays. Donc cette action et cet acte de corruption, moi j'avais au préalable voulu vous savez, dans notre pays, nous avons trois niveaux de corruption. Il y a la corruption morale, corruption financière, aussi un autre niveau de corruption qui est adopté par ces derniers. Je voudrais demander à toutes les personnes qui sont à la tête de la gestion dans toutes les administrations de notre pays, de pouvoir mesurer, de faire une preuve des compétences, de bien juger les quelques fonctions qui leur ont éparpillées.
Alors, ma belle, la question, allez rapidement.
Nous qui sommes étudiants, nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de tendre là où elles sont aussi aujourd'hui. Ça nous décourage du fait que nous sommes en train de remarquer, même la corruption au niveau de nos institutions universitaires ainsi que d'autres institutions, on a même les comportements d'intégrer la corruption dans ces milieux ici. Ça nous décourage nous tous aussi de ne pas avoir même la compétence, ou pas la volonté d'étudier. Ça nous décourage totalement. La corruption dans notre pays doit être vraiment mise à l'écart. Ça ne doit pas évoluer, arriver même jusqu'à là. Je voudrais que l'invité place des mécanismes de prévention, des punitions, soit de décourager toutes les personnes qui sont peut-être favoriser cette situation de corruption dans notre pays, puisque ça va mal dans notre pays.
Merci. Merci, Mabé de Kananga. Bon Pingo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Bonping, Maton de Jacques à Kinshasa.
On vous écoute, bonjour.
Quand ça se passe en Chine et aux États-Unis, si on essaie de retirer, soit de diminuer l'effectif des autres services de l'État dans les ports et les aéroports, et qu'il y ait un seul budget, soit une seule caisse, et là aussi, c'est l'une des armes les plus efficaces pour lutter contre la corruption.
Merci, Bonpingo. Monsieur Robert, merci.
Oui, merci beaucoup. Pour Jacques Bonpingo, effectivement, Il rencontre une des stratégies qui est préconisée dans le document des stations de lutte contre la corruption. Il s'agit de l'érection des guichets uniques là où on trouve un pléthore de services publics de l'État. Donc cela est tout à fait normal. C'est prévu dans la stratégie.
Au niveau de port, aéroport.
Même vous avez suivi ce qui se passe au niveau même des investissements avec. La NAPI et consorts. Il y a Mavé qui est étudiant et qui se sent découragé. Non. Au contraire, dernièrement, nous étions avec les étudiants, on faisait la sensibilisation sur les méfaits de la corruption. Mm-hmm. Au contraire, les étudiants doivent plutôt s'armer de beaucoup de courage parce que les étudiants, c'est les Congos d'aujourd'hui et les Congos de demain. Il faudra que les étudiants plutôt puissent relever les défis demain. Qui se disent, nous allons travailler autrement, nous n'allons pas voir que nos ventres, mais nous voulons regarder l'intérêt général, l'intérêt de tous les Congolais. Alors, si eux, demain, peuvent se comporter autrement quand ils seront, ils vont nous remplacer dans l'administration, je crois que ça sera une très bonne chose.
Voilà. Alors, il a posé la question de savoir comment décourager cette pratique.
Une fois de la commission, vous savez, il y a. Si je prends l'administration au sens strict, au sens tout, au sein de l'administration, il y a déjà des actions qui ont commencé. Vous savez qu'il y a eu des révocations. Il y a eu des révocations.
Dans la magistrature.
Et aussi dans l'administration, il y a eu 334 cas de révoqués. Ça, au niveau de différents ministères. Et puis, bon, il y a les
problèmes. À quel niveau
C'est au niveau.
Des simples fonctionnaires ou bien. Parce que
des cadres
de l'administration.
C'était des directeurs, directeurs chefs de service, des chefs de division, des chefs de bureau.
Corrompus.
Corrompus, et puis il y a aussi des faits ou des actes assimilés à la corruption. Mm-hmm. Vous savez, il y a des gens qui spolient les terrains, les immeubles de l'État, jusqu'à vendre même ces immeubles. Et alors, tous ces actes-là ont été sérieusement sanctionnés. Par les ordonnances du chef de l'État de 2009 et de 2010. Et donc, là, déjà, quelque chose qui a commencé, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudra que, réellement, qu'on pousse encore plus loin pour décourager ceux qui se livrent à de telles pratiques.
Mais il y a eu une opération, Tolérance Zéro, ici, mais les effets aujourd'hui, comment les jugez-vous?
Oui, les effets de la Tolérance Zéro sont mitigés. C'est mitigé parce que il y a de ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas vu ce qu'on appelle généralement les couloirs en cravate, être inquiétés et emprisonnés. Mais je crois que le tolérance zéro a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais ce qui est plus important, c'est réellement d'avoir une stratégie, la stratégie nationale, pour qu'on puisse traquer les corrompus, les corrupteurs et leurs facilitateurs à tous les niveaux. Alors là, on aurait vraiment résolu le problème.
Donc, la solution, la meilleure solution, c'est d'abord des sanctions. Il faut des sanctions.
Il faut qu'il y ait des sanctions. Et pas des sanctions de manière de complaisance, parce que je veux donner un exemple. Un monsieur qui détourne 456 000 dollars, par exemple. Et puis, au niveau de l'administration, vous savez ce qu'on lui inflige comme sanction, c'est juste une exclusion temporaire de 3 mois avec privation de salaire. Mais tout ce qu'il a, donc en fait, vous savez voir la complicité des responsables de services à ce moment-là. Mm-hmm. C'est qu'on lui offre des congés, il peut aller.
Avec son argent, il va jouir de son argent.
Parce qu'en fait, oui. Pendant 3 mois, il peut se rendre où il veut avec ses plus de 400 000. Dollars en poste.
Mmh. Donc, alors, quelle est la mission de l'OCEP? Qu'est-ce que vous faites exactement?
Ok,
merci. Dénoncer
la mission de l'OCEP, c'est d'abord la promotion des valeurs éthiques, des principes déontologiques et de la lutte contre la corruption, le volet prévention au sein de l'administration. C'est ça la mission de l'OCEP.
Mais l'OCEP, on ne sent pas aussi les effets.
Oui, mais il est vrai que c'est difficile à sentir. Mais nous sommes et dans la prévention, et dans la prévention, la plus grande activité qu'il fallait réaliser, c'est ce que je vous ai dit. Nous pensons que si nous n'y allons pas de manière systématique, et si nous n'avons pas l'approche holistique, c'est-à-dire touchant toutes les composantes de la société, à ce moment-là, notre action ne pourra pas être efficace.
Bien, Tichon nous a écrit sur la page Facebook du magazine Au Cap Service, il dit ceci, il faut appliquer la loi quand il le faut. Celui qui commet l'acte de corruption doit être arrêté et puni conformément à la loi. Malheureusement, la loi du plus fort est encore en vigueur en RDC. À quoi servent les audits dans les entreprises publiques? Les auditeurs eux-mêmes sont corrompus.
Oui, moi je ne voudrais pas généraliser, mais c'est tout à fait vrai. Les auditeurs, mais vous savez, c'est tout un système. Il faut se dire qu'aujourd'hui, la corruption n'a pas. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller de manière systématique.
Mmh.
Donc, nous n'aurons pas isolé, dire que voilà, c'était la société. C'est tout le corps.
Donc, ça c'est tellement
une gangrène. C'est une gangrène. C'est un cancer social.
Oui.
Et donc, il faudrait que la solution soit à la dimension du mal. Vous comprenez? Alors, les auditeurs corrompus, c'est vrai, mais les véritables auditeurs, quand ils font les rapports, finalement, quelle est la suite? Quand on arrête les gens, il y a même des gens qu'on défait devant les cours des tribunaux. Mais quelle est la solution là-bas? On finit par les élargir en disant que voilà, souvent, il n'y a pas suffisamment de preuves.
Donc, il y a des complicités à plusieurs niveaux.
Mais c'est
la corruption, c'est...
La corruption aujourd'hui est vraiment généralisée dans notre pays, il faut le dire. Et donc, il faudra vraiment des mesures courageuses pour que nous arrivions à endiguer la corruption.
Quelles sont les mesures? Quelles sont les sanctions?
Je vous ai dit que, vous savez, dans la stratégie de lutte contre la corruption, il y a d'abord la prévention. La prévention, c'est la sensibilisation, c'est la moralisation, c'est l'éducation de nos populations.
Et surtout qu'au départ, vous avez parlé de l'écritement de la conscience.
Tout à fait. Tout à fait. Il faut que les gens se disent que, en fait, quand cet argent ne m'appartient pas, je n'ai pas le droit de m'approprier cet argent. C'est plutôt l'argent, les respects, le minimum de respect pour le bien public. Ça, c'est un. Et puis, de deux, il y a bien sûr la phase de détection et des investigations. Mais il y a la dernière phase qui porte sur la répression. Et dans la répression, vous savez, c'est vrai que certains magistrats n'arrivent pas à réunir facilement des preuves. C'est pas tout à fait de leur faute parfois. Il y en a qui manquent une formation appropriée. Vous savez qu'ailleurs, les magistrats qui, en fait, tranchent sur les questions, les problèmes de corruption, reçoivent aussi une formation approfondie en finances publiques pour arriver un peu à gratter, à trouver, à rechercher ce qui se cache.
Mais
chez nous, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, mais du moins la stratégie prévoit aussi la formation de nos juges sur les pratiques de corruption, comment mener les investigations pour arriver à établir les faits de corruption, réunir les preuves.
On a appris dernièrement, j'en suis, il y a des investisseurs qui arrivent au pays avec des bons projets d'investissement, mais quelque part, dans l'administration, ça bloque parce que quelqu'un veut avoir sa commission ou déjà le partage des bénéfices avant même que l'activité commence.
C'est vrai, c'est monnaie courante au sein de notre administration. C'est pourquoi je suis en train de dire et de me répéter. Je pense que les véritables hommes d'affaires, ceux qui sont capables d'investir dans notre pays, les véritables ne fréquentent pas encore notre pays, ils hésitent à cause de nos pratiques de corruption. Donc vous voyez comment, à travers la corruption, nous arrivons même à chasser les investisseurs. Et voilà pourquoi on a tant de jeunes qui sont dans le chômage aujourd'hui. C'est à cause de leurs parents, à cause de nous qui aujourd'hui continuons à nous complaire dans les actes de corruption.
Bien, merci Robert Moussi. Nous rappelons que vous êtes directeur général adjoint à l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle au CEPANCIG. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine.
Je vous remercie.